France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. On passe cette semaine avec Georges Bizet, mais pas le Bizet lyrique, le Bizet maître de l'orchestration. Et il l'était quelles que soient les conditions. Car lorsque Léon Carvalho, directeur du théâtre du Vaudeville à l'époque, lui commande une musique de scène pour accompagner la pièce qu'Alphonse Daudet a tirée de sa nouvelle L'Arlésienne, il doit faire avec ce qu'il a, un tout petit orchestre de briques et de brocs. Vous connaissez la farandole de L'Arlésienne, mais peut-être pas dans sa version originale. C'était Marc Minkowski et les musiciens du Louvre qui jouaient cette célébrissime farandole de l'Arlésienne de Bizet, comme vous n'êtes pas habitué à l'entendre, dans la version originale pour le théâtre, avec la danse du cheval fou par le petit orchestre de scène et son tambour provençal, et le chœur qui chante la chanson du pays des Santons. La pièce de Daudet a été un fiasco en 1872, mais Bizet était conscient que sa musique pouvait être réutilisée. Et pas seulement Bizet, retenez le nom d'Ernest Guiraud, compositeur français, d'un an seulement l'aîné de Bizet, son condisciple chez Marmontel et à Lévis au conservatoire, et son grand ami. Eh bien, en 1879, 4 ans après la mort de Bizet, Guiraud a l'idée d'orchestrer quelques numéros de l'Arlésienne pour grand orchestre. Il reprend la farandole, mais cette fois en commençant par la marche des rois et en y superposant la danse du cheval fou avec le tambour, un accelerando crescendo spectaculaire, idéal pour un bis de concert, mais qui n'est pas de Bizet. On écoute Paul Paré.
Thank you.
Paul Paret et l'Orchestre symphonique de Détroit, c'est donc dans la version de la suite de l'Arlésienne, réorchestrée par Ernest Guiraud, que je vous passais cette farandole irrésistible, même si quelque chose me dit que Bizet n'aurait peut-être pas eu la main aussi lourde en orchestrant. Autre passage célèbre de l'Arlésienne, où Bizet a su montrer toute son inspiration, c'est l'Adagietto. Dans la musique de scène, il s'agit du mélodrame de l'acte 3, une musique douce et méditative, mais qui est noté dans l'original andante quasi adagio, donc plus rapide que ce que l'on a dans l'oreille, autrement dit, pas sirupeux. Version originale de l'Adagietto de l'Arlésienne pour le petit orchestre de scène, c'était John Eliot Gardiner et l'Opéra de Lyon. J'en voulais un peu à Ernest Guiraud d'avoir surorchestré la suite de l'Arlésienne, mais attention, c'est la suite numéro 2 qu'a adapté Guiraud. Avant cela, Bizet avait eu le temps d'orchestrer une première suite de l'Arlésienne créée par Padeloup et qui est entièrement de sa main. Elle comporte 4 numéros, dont cet Adagietto. Et comme il disposait d'un orchestre symphonique, il en a profité pour ralentir le tempo. C'est que le son est plus soutenu avec 40 cordes qu'avec 10. Thank you. lyrique, mais pas sentimentale et tout en finesse. C'était l'adagietto de la première suite de l'Arlésienne de Bizet par Michel Plasson et l'orchestre du Capitole de Toulouse. Mais peut-être que cela évoque pour vous un autre adagietto. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Michel Plasson, qui est un très grand défenseur du patrimoine musical français, a eu des mots assez durs pour un certain Gustav Mahler, qui a inséré dans sa 5e symphonie un adagietto auquel il a dû une célébrité universelle, renforcée encore par le film « Mort à Venise ». Or, pour Plasson, aucun doute, Mahler a pompé. Et son adagietto, qui est de 1902, est un décalque de celui de Bizet. C'est peut-être un peu exagéré, mais la filiation est évidente. Plagiat ou pas plagiat, je vous laisse juge. En tout cas, c'était le début de l'adagietto de la 5e de Mahler par Ricardo Chailly et Amsterdam. Dans l'Arlésienne, Bizet, orchestrateur, explore aussi les timbres des instruments. Et il ne se prive pas des progrès de la facture instrumentale. En 1846, Adolphe Sax a déposé le brevet pour une famille d'instruments, les saxophones. Au départ, c'est surtout un instrument d'orchestre d'harmonie, mais les compositeurs classiques finissent par s'y intéresser. Et là, Bizet est pionnier. Tout le monde peut fredonner le thème de la Marche des Rois qui ouvre le prélude de l'Arlésienne. Mais avez-vous remarqué que juste après, le thème de l'Innocent est confié à la sonorité chaude et lyrique du saxophone alto? C'est Daniel Defayet qui joue dans la version Karajan. Le prélude de l'Arlésienne avec une rareté dans la musique symphonique à l'époque, un solo de saxophone, Daniel Defayet dans la version Karajan. À peu près au même moment que l'Arlésienne, Bizet s'acquitte d'une composition pour piano à quatre mains pour deux jeunes filles de son entourage. Ce sont des petits bijoux, à la fois ludiques et descriptifs, mais comme toujours, beaucoup plus subtils et poétiques que la simple anecdote. Ce sont les jeux d'enfants. Et dans la foulée, il orchestre 5 des 12 mouvements de ces jeux d'enfants pour être créés par Édouard Colonne. Si on écoute dans la foulée la version originale pour piano à quatre mains et la version d'orchestre, eh bien c'est idéal pour prendre la mesure du talent de Bizet orchestrateur. Prenez le morceau intitulé « La poupée ». C'est une berceuse d'une grande tendresse. On écoute le duo formé par Patrick et Taeko Kromlinck, dont le double suicide il y a 30 ans déjà a été un grand choc pour la communauté musicale. Eh bien, dans la version orchestrale de la poupée, la main gauche du piano est remplacée par des triolets de violoncelle. La mélodie est donnée par les premiers violons avec sourdine, pianissimo, bientôt relayé par les bois, dans l'ordre, clarinette, flûte, puis hautbois avec basson, et puis le retour des violons, cette fois sans sourdine. La dernière touche est laissée à la flûte. Tout ça est peint avec le pinceau le plus fin. On écoute l'orchestre de la Suisse romande et Ernest Ansermet. Thank you. Alors ça, c'était la poupée. Autre exemple du talent de Bizet, orchestrateur avec les jeux d'enfants, c'est la toupie. Comme son nom l'indique, c'est un tournoiement. Au piano à quatre mains, ça donne des notes piquées dans l'aigu et des doubles croches dans le grave. C'est un mouvement perpétuel dans l'esprit du final de la symphonie en ut. C'est toujours le duo Crommelinck. À l'orchestre, ça donne le tournoiement aux altos, épicé par des pizzicati de violon, violoncelle, contrebasse, et les notes piquées aux deux flûtes, puis flûte et clarinette se répondent avec une petite plainte de hautbois. Comme dans un scherzo de Mendelssohn, l'orchestre doit être agile et aérien, surtout rien d'appuyé. Ernest Ansermet et l'orchestre de la Suisse romande rendent justice à Bizet, maître de l'orchestre. Il l'est en symphonique, il l'est aussi à l'opéra, ça on le verra demain. Il sera peut-être enfin temps de se pencher un peu sur Carmen. Et on le fera avec Marie Groux à la réalisation et Nadège Antonini à la console. On est entre de bonnes mains. Une très bonne journée à tous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.